Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, la dernière heure avant Noël. Je vous rappelle que vous pouvez en trouver en podcast, évidemment. Les deux premières heures sont déjà disponibles. On est avec Marion Bartoli, avec Jérôme Pineau, avec Marc Madio et Fred Weiss, en grande forme, Fred, aujourd'hui.
Fred, il est au taquet aujourd'hui.
Mais tu sais que Fred est toujours mort de rire.
Je m'en remets pas.
Sur ça.
Je n'y arrive pas. C'est un excellent moment.
Faculté, écoute, on est là, tu sais, avant les fêtes. On a envie que tu sois de bonne humeur. Travaille pas beaucoup en plus en ce moment.
Trois fois.
Tu dors jamais. En plus, la NBA s'arrête pas pendant les fêtes, on est d'accord?
Évidemment que non.
Voilà.
Ce serait pas drôle.
Alors que le tennis s'arrête, par exemple, le vélo.
Ah,
le cyclocross.
Ah là là.
Cyclocross.
Là, c'est la semaine sainte qui arrive.
Ah ouais? La semaine sainte.
Ah bah oui, là, il y a des crosses quasiment tous les jours.
Van der Poel a gagné hier.
Van Aert, là, ils vont se croiser trois fois dans les 8-10 jours. Aujourd'hui, c'est Coxyde, c'est ça?
Dans le sable.
Dans le sable, il va y avoir 30 000 personnes.
C'est ce que c'est, Marion, un cyclocross, et ils font du vélo dans la boue et tout.
Oui,
dans le sable aussi, oui, c'est vrai, dans le sable.
Aujourd'hui, c'est Coxyde, il va y avoir au moins 30 000 personnes.
Mais quelle idée de mettre un vélo dans le sable, les amis.
Regardez, tu comprends tout de suite.
Mais Van der Poel, ça n'a pas l'air de le gêner beaucoup.
Vous avez beaucoup pratiqué le cyclocross, les deux, là? Marc, Jérôme?
Marc, oui.
Champion de France.
Bon, excuse-moi.
Moi, beaucoup, mais au niveau régional.
Attends, mais n'empêche, le cyclocross, évidemment, ça te donne des qualités de pilotage derrière qui, pour gagner Paris-Roubaix, par exemple, te servent. Robert Van Der Poel, ça lui sert encore aujourd'hui. Tu dirais que t'es encore un bon pilote de vélo?
Ah non, absolument, moi, nul.
Ah oui, c'est vrai.
Là, je pilote plus un vélo, moi, c'est fini depuis longtemps.
Mais c'est marrant, en fait. Est-ce qu'on en parlait la dernière fois, Marion, qui veut pas trop prendre la raquette pour faire des matchs?
Voilà, t'as vu, je me suis entraîné quand même. T'as vu les photos récemment?
Ouais, j'ai vu, effectivement. Parce que, de toute façon, dès que tu vois une star, tu dis, attends, je vais rejouer au tennis, finalement. Tu vois Tom Cruise, tu dis, attends, je vais faire de la moto, finalement, sur une, sur une corniche. Jérôme, ouais, vélo.
En descente, Si, je me suis lancé un défi. Je vais participer avec mes clients le 4 avril prochain au Tour des Flandres cyclo 160 bornes sur les pavés.
Ah ouais, quand même. C'est un peu commercial ton truc là.
Ouais.
Un peu, évidemment.
À peine. Pas du tout.
J'emmène 14 clients.
Ouais. Ah ouais, quand même.
Fred, il y a des gens qui un jour te disent, tu veux pas me dunker dessus, s'il te plaît?
Mais ça, j'ai fait une intervention il y a pas longtemps dans une entreprise et ils m'ont demandé d'aller jouer au basket. C'est et je leur ai dit non.
Ah ouais?
Non, parce que je sais pas jouer au basket en fait.
Pourquoi tu
sais plus?
Tu sais plus, ouais, bon, j'espère. Ouais.
Tu joues encore mieux que les trois quarts qui jouent au basket pour la première fois.
Peut-être.
T'as qu'à venir jouer au basket avec moi.
Ils vont jouer contre moi, je vais leur donner un coup et après il y aura arrêt de travail et tout ça. Ça peut être très compliqué.
Tu peux peut-être t'offrir un ballon de basket pour Noël, toi, tiens.
Ça serait gentil.
En tout cas, je vais le demander au Père Noël. Dans un instant, on va parler du Maroc, sérieux outsider à la Coupe du Monde ou pas. On parle de football en fin d'émission. Les jeux du sport, je vous rappelle, pour remporter votre aspirateur Cyclomax R15 station signé Easy Clean. Pour le remporter, appelez le 32-16 touche 4. Envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais avant d'ouvrir la porte du vestiaire, les amis, on a du direct à Val d'Isère avec le Super G féminin. C'est du ski alpin, évidemment. Léna Marjac et Sébastien Ami nous attendent sur place. Salut, les amis.
Salut, tout le monde.
Salut, GG.
Salut à tous.
Bon, on attend une superstar, on l'a dit tout à l'heure, et aussi Romain Muradouli qui a été très performante la semaine dernière sur cette discipline.
Oui, un podium la semaine dernière. Effectivement, elle était deuxième du Super G à Saint-Maurice. Donc, il faut surfer sur cette belle dynamique pour la Française sur la piste Aurélie-Killy de Val d'Isère. Donc, elle partira, Romane Miradoli, avec ce dossard 15. Première Française à s'élancer aujourd'hui en Super G. Elles seront 6 en tout au départ. Et puis, évidemment, c'est vrai qu'on en parle depuis quelques jours maintenant, la superstar Céline Sévone qui est allée chercher une quatrième place, elle, la semaine dernière à Saint-Maurice. Donc, Romane Miradoli a fait mieux que Céline Sévone Bastoun, mais c'est vrai que pourquoi pas voir une nouvelle fois Lindsay Vonn monter sur le podium pour le début de cette saison.
Oui, on en parle tous les jours de Lindsay avec son retour en force. En tout cas, c'est une piste qu'elle adore. Elle s'était déjà imposée ici par le passé. Elle a le ski en ce moment qui est très vite. Je vois pas pourquoi elle serait pas loin de la victoire aussi. Et puis Roman, voilà, c'est sa discipline, le Super G. Elle a gagné l'année dernière. Elle sort d'un podium. Donc, il faut surfer aussi sur cet état de grâce. Et ici, en France, ce serait beau de monter sur le podium.
Dossard 13, donc, pour Lynn Seven, ce sera dans quelques instants. Et pour l'instant, c'est une Slovène, Ilka Stuek, qui est en tête de ce Super G à Val d'Isère sous les nuages.
Ah, on va suivre tout ça avec vous à 46 jours des JO. JO d'hiver de Milan Cortina dans RMC, la radio officielle, je vous rappelle. Et puis tous les dimanches à 15h, vous retrouvez en piste vers les Jeux pour avoir toutes les informations. Tiens, je vous donne d'ailleurs un résultat pour l'instant de la première manche de slalom géant d'Altabadia. Masculin, Léo Anguenaud, premier français, 9e à 1 seconde 44, Thibaut Favreau, 10e à 1 50, Alexis Pinturo est plus loin, 25e à 2 secondes 40 de Marco Schwartz, donc le leader, l'Autrichien. Ça va être un peu compliqué a priori pour nos Français en Italie. Allez, tout de suite, on ouvre la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, cette semaine, ce qui nous a marqué, ce sont les biathlètes français. Donc, ils nous expliquaient avant le week-end de Coupe du Monde au Grand Bornand, que l'on suit sur RMC, il y aura la Mastart tout à l'heure à 12h15, la difficulté pour eux de performer à la maison devant le public français. Trop d'attentes, trop de pression. C'était le cas notamment de Lou Jean Monod qui nous l'avait répété. Alors, elle a gagné hier sur la poursuite, elle est désormais leader du général. Aujourd'hui, elle sera donc sur cette Mastart à 12h15. Elle aura le facteur pression à la maison quand même encore en tête.
Prendre ici, c'est vraiment cool. Je pense que ce sera un aussi gros challenge de faire la masse avec, parce que voilà, le cadre du Grand Beau, ça m'a toujours stressé. Avec le maillot jaune, ça va être une petite case en plus. Donc, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je vais ressentir au jeu. J'ai pas d'expérience, mais en tout cas, l'émotion, le stress, l'envie de réussir, c'est ici que je vais le ressentir le plus fort et j'ai envie de le prendre comme un exercice.
Voilà, comme un exercice, c'est bien parce qu'elle compare du coup le niveau de pression même par rapport aux Jeux Olympiques, donc au plus haut niveau pour un sportif. Je voudrais qu'on parle de ça à travers vos expériences, la difficulté ou pas de performer devant le public français à la maison. C'est pas neutre pour un sportif. Fred, quand on a préparé, toi tu m'as dit, je comprends pas limite.
On fait du sport pour ça. Justement pour vivre ces moments, sinon on ferait du sport pour nous et on le ferait pas pour les autres et on serait pas fiers de nous quand on remporte des médailles. Je pense pour moi que ça a été la plus grande motivation de ma vie, justement quand tu joues à la maison. Alors quand t'es dans ton club en basket, l'avantage c'est que tu joues très fréquemment à la maison et effectivement,
bien sûr,
tu peux pas comparer
avec l'équipe de France,
mais ça te transcende. Mais avec l'équipe de France, quand tu as un peuple tout entier qui est là, qui chante la Marseillaise avec toi, qui quand ça va un petit peu moins bien te rebooste comme un seul homme. C'est pas pour rien qu'on dit un sixième homme au basket. C'est-à-dire qu'on est cinq joueurs sur le terrain et le sixième homme, c'est le public. Et quand tu joues à la maison, quoi de mieux que d'avoir ton pays qui te soutient, les gens qui sont autour de là.
La Marseillaise aussi.
La Marseillaise, c'est parti. Mais moi, ça me fout les poils.
Ça te mettait en transe.
Mais ça me met en transe, évidemment. J'ai envie de manger les gens en face.
Ah ouais,
mangé quelques-uns d'ailleurs et je savais que Jérôme allait faire la.
C'est pas légal.
Cette réflexion. C'est pas légal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui puisse plus te transcender que de jouer pour ton public devant chez toi.
Tu te servais du public, ça t'alimentait.
En fait, le truc, c'est que ça te motive avant, ça te motive pendant, mais surtout quand t'as une petite baisse de forme, et c'est normal dans un match de basket, justement, ils sont là pour te redonner d'énergie, pour te restimuler. Et en plus, souvent, quand tu joues avec l'équipe de France en France, il y a ta famille en plus. Mais quelle merveilleuse joie de jouer devant ta famille.
Pour certains, c'est une pression, Fred.
Mais en quoi c'est une pression?
Parce qu'il dit, je peux pas me planter, je vais prendre mes proches.
Faites pas de sport. Restez chez vous tranquillement. Le truc, c'est la communion avec le public, c'est ce qui est le plus important. Les supporters, les fans, c'est ce qui est le plus important. Représentant ton pays, c'est ce qui est le plus important. Et surtout, quand c'est à la maison.
Jérôme, je crois que toi, t'es sur le même. Ouais, on se connaît. GG, ça va. Tranquille, ma gueule. GG, Jérôme, disons, je vais pas y arriver. Toi, pareil, t'es un peu sur le même registre que Fred.
Ouais, je pense que ça ne peut être que stimulant, ça ne peut être qu'un plus. Ça m'est arrivé d'avoir un peu les jambes qui tremblent au départ d'une course quand c'est à la maison, un championnat de France chez les jeunes.
Lou Jean Monod disait ça, il disait le matin de la course, hier par exemple.
Peut-être, mais ça se transforme vite en énergie positive. Et, ça doit, de toute façon, comme dit Fred. On fait ce métier-là pour ça. On aime ces émotions-là pour ça. Enfin, je veux dire, faire du vélo, faire une course, faire du sport, à choisir chez toi, devant ton public, avec des gens qui hurlent ton nom, ou dans un endroit où il n'y a pas de public, ou à l'étranger où personne ne te connaît, t'as envie de le faire tous les jours chez toi pour te faire seconder ton nom.
Ça t'a donné des pourcentages de force en plus, toi, tu penses?
Bien sûr, quand tu fais du course et que ton public est là, c'est chez toi, ou dans l'école, tu sais que t'as les gens qui t'aiment qui sont là, évidemment que tu trouves de l'énergie.
Attends, mais même
supplémentaire.
Quand t'étais gamin, ça n'a pas toujours été comme ça, Jérôme.
Je te l'ai dit, ouais. Chez les jeunes, je me suis souvenu hier en discutant avec toi de, de ça, un championnat de France chez moi, j'avais fait la course 10 fois avant et du coup, jambes coupées, je me suis cagué dessus, quoi. Mais c'est le seul mauvais souvenir, en fait. J'avais tellement envie de bien faire et à l'époque, j'étais parmi les prétendants à ce titre.
Mais parce que c'est ça le piège. Complet. C'est que t'as tellement envie de bien faire, ouais. En fait, plus qu'ailleurs.
Donc, oui, non, mais là, j'étais dans le cheminement vers mon objectif ultime qui était de passer professionnel et de briller au plus haut niveau. Mmh. Une fois passé pro, j'ai pas eu de souvenir. Alors après, c'est rare chez nous de courir chez toi. Je pense qu'on va passer la parole à Marc. Tu mets Paris-Roubaix en Espagne ou en Italie, c'est pas la même motivation le matin quand t'étais au départ.
Ouais, alors, on parle de la difficulté de performer ou pas devant son public. Bah, figurez-vous, j'étais étonné en parlant avec Marc hier. En parlant de ça, le public, toi, tu le vois pas?
Non, mais moi je pense que le public, ça dépend du sport que tu pratiques. Mmh. Le public, si tu joues au basket, si tu joues au foot, au rugby et que tu es dans un stade, la relation avec le public est forte et importante quand tu joues à domicile. Quand tu pratiques un autre sport, un sport itinérant un peu comme c'est le cas en cyclisme, il y a deux situations. Moi, la première, quand j'étais coureur à titre perso, que c'était moi qui étais sur le vélo, je faisais abstraction totale du public.
Ah ouais ?
Total. Ça n'a jamais eu le moindre effet sur moi. Jamais. J'étais concentré sur ce que j'avais à faire et rien d'autre. Je me préoccupais pas de ce qu'il y avait autour. Mais vraiment, j'étais dans la bulle. On pouvait venir me parler, j'entendais pas la personne qui me parlait.
C'est-à-dire, quand tu gagnes Paris-Roubaix, par exemple, t'entends pas.
J'étais sur mon truc, rien que mon truc.
C'est-à-dire quoi, tu découvres que le public a été euphorique en revoyant les images derrière?
Non, j'ai juste un moment d'euphorie grâce au public dans le dernier kilomètre, mais la course était pliée.
Et quand tu rentres dans le vélodrome.
Ça, oui, là, il y a une relation avec le public. Mais le reste des 270 kilomètres qu'il y avait précédemment, absolument pas du tout. Et je m'interdisais, quelque part, de me laisser griser par le public.
Même au moment où tu te retrouves seul en tête.
Je me suis toujours interdit de me laisser. Non,
t'as pas envie de t'en servir, justement. Non, dire, c'est une motivation, une énergie supplémentaire.
Pour moi, ouvrir la porte au public dans ces instants décisifs, c'était peut-être aller vers l'erreur.
Ah, ben donc ça veut dire que tu faisais ça pour te protéger aussi, d'une certaine façon.
Oui,
conscient de ce que ça peut apporter.
Du danger que ça peut apporter. Après.
Intéressant.
Si vous aviez interviewé aujourd'hui Gilbert Duclos-Lassalle.
Qui a gagné Paris-Roubaix.
Qui a gagné de Roubaix. Gilbert, lui, c'est à l'inverse de moi. On le ressentait, on le voyait. T'as connu Gibus
sur
vélo.
Bien sûr.
Et Gibus, lui, c'était Duclos qui poursuivait Lassalle en permanence. Que ce soit une course, un critérium ou autre, il entendait le speaker dire Duclos-Lassalle, il était en ébullition. Donc lui, il se servait du public.
Ouais, c'est personnel.
Sauf au Grand Prix de Ballot.
Chacun a une approche différente. Et on va entendre Marion dans quelques instants. Mais alors, ce qui peut être surprenant, peut-être pour nos auditeurs, je pense, Marc, c'est que toi, manager.
Ah oui, mais quand t'es manager, t'es dans une autre. T'es dans une autre dimension.
T'as beaucoup utilisé le sentiment cocardier. Utiliser le public. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Le maillot bleu, blanc, rouge. Le public est venu vous voir.
Quand t'es coach, t'es pas acteur. Tu assistes les gens qui vont être acteurs. Moi, quand je suis coach, je me mets jamais à la place du coureur sur le vélo. Je leur transmets quelque chose, j'essaie de leur donner des éléments, mais c'est à eux de les intégrer, c'est à eux de les vivre. Mais le fait qu'il y ait du public et de se servir du public sur un championnat de France ou sur un final d'étape du Tour, je me souviens des mots prononcés à la radio mon frère dans l'Alpe d'Huez quand Pinot a gagné. Thibaut Pinot gagne l'étape de l'Alpe d'Huez, il avait Quintana à moins d'une minute derrière lui.
Ton frère qui est directeur sportif, on rappelle pour ceux qui ne savent pas.
Qui était directeur sportif à l'époque. Et dans les oreillettes, Yvon lui criait tout le temps, écoute le public, écoute le public. Il lui disait de se servir du public et d'utiliser le public dans les derniers kilomètres de la montée de l'Alpe d'Huez. Là, on est dans autre chose. Mais à titre personnel, sur une course, c'était pas du tout mon
fonctionnement. Dans la transmission, Marc, il faut faire aussi très attention. Parce que moi, cet homme sur le plateau m'a brisé mon rêve de manager. C'est-à-dire que, un jour, on a fait championnat de France chez nous. On a tracé le parcours chez nous à Grandchamp en Bretagne. Ouais. On avait l'un des trois grands favoris de la course avec Brian Coquart. On avait tout mis en place et Brian, je savais qu'il aimait cette énergie-là, donc on avait fait le briefing avec Didier Rousse et moi uniquement sur on est chez nous, on va les tendre, on a tout le monde avec nous, on va leur tendre un piège, on va mettre un plan en place et on va les plier, on va gagner. Alors que l'équipe de Marc était la meilleure équipe et Julien Lafilippe, bon, on l'a pas plié, c'est Arnaud Desmarques qui a gagné. Mais la transmission, je savais qu'avec Brian je pouvais le faire, avec d'autres j'aurais peut-être pas pu. L'athlète est aussi Il faut qu'il soit répondant.
Mais, hein, mais chacun a sa façon d'appréhender les choses aussi. Hein.
Non, mais c'est pour le coup, on est dans le vestiaire. Hein, je vous rappelle sur la difficulté ou pas de performer devant le public français avant d'écouter Marion pour aller dans le sens de ce que tu disais, Marc. En plus, moi, j'étais sur la moto RMC quand Thibaut Pinot a gagné à l'Alpe d'Huez. En étant derrière lui, on avait des frissons. Vrai, et moi, j'entendais pas l'antenne RMC pratiquement tellement il y avait de bruit. Donc moi, je me disais, mais ça doit être une espèce de potion magique là pour lui, pour le pousser.
Voilà, évidemment.
Mais c'est assez fou de t'entendre dire que bah, peut-être que parfois certains d'entre vous n'entendent pas ça et font abstraction de cet environnement-là pour performer. Marion, toi, évidemment, les tennisman, tenniswoman français et française, on a toujours en tête Roland Garros. Ah, les Français, ils arrivent, ils sont sciés par l'ambiance et parce que c'est pour toi, c'était quoi Roland Garros devant le public français? Est-ce que c'était un stress ou au contraire un truc que tu attendais avec impatience justement dans l'approche mentale et de l'environnement?
Alors moi, le problème que j'avais avec Roland Garros, c'est que la terre battue en fait était mon plus grand problème, c'est-à-dire que c'était ma pire surface, et que quand je me levais le matin et qu'il faisait 14 degrés et qu'il pleuvotait toute la journée, je disais mais là ça va être un enfer quoi. Donc en fait, public ou pas public, les pauvres, malheureusement, ils assistaient à une bouillie de match parce que j'arrivais pas à jouer et que j'essayais de faire mon maximum, mais que malheureusement c'était pas ce que je produisais, c'était vraiment pas bon, donc il y avait même pas de quoi s'enthousiasmer. L'année où effectivement j'ai eu la chance qu'il fasse un Roland Garros plus beau, plus sec, je suis arrivée à me servir de cette énergie monumentale que le public français était capable de gagner, de te donner à Roland Garros. Et quand on le voit encore une fois sur ces années qu'on vient de suivre avec Gaël Monfils par exemple, qui est capable vraiment d'aller chercher des matchs qui ne viendraient jamais ailleurs grâce au public, Corentin Moutet qui a été capable d'enflammer Simone Mathieu, même moi en les commentant ces matchs aujourd'hui, j'ai quasiment envie d'être sur le terrain avec eux pour revivre ces moments-là. C'est les meilleurs matchs de ma vie, même au-delà du fait que malheureusement je ne suis pas arrivée à gagner Roland Garros, c'est les meilleures émotions qui me restent. C'est-à-dire que vous faites plus qu'un avec le public, qui est uniquement là pour vous soutenir, pour vous pousser, pour vous aider à aller chercher des ressources supplémentaires quand c'est dur, quand vous êtes au troisième set, quand il y a la fatigue, quand il y a l'adversaire qui joue bien en face. Ces matchs-là, l'année où je suis arrivée à faire demi-finale Roland-Garros, je ne serais jamais arrivée à battre Kuznetsova, qui a déjà gagné Roland-Garros avant moi, qui était une spécialiste de terre battue, si je n'avais pas eu le public du Langdale qui était chauffé à blanc.
Tu te dis sur le terrain, je peux pas lâcher ce match. C'est plus qu'ailleurs, en fait. Tu restes connecté. Ouais. Tu joues pas que pour toi.
Tu as les gens au premier rang qui te parlent. Tu as les gens qui sont vraiment avec toi sur le terrain.
T'es pas tout seul. T'as tout le monde, tout le public avec toi qui t'accompagne, qui te pousse. Là. C'est magnifique.
Surtout sur un sport individuel comme le vôtre, Marion.
Et c'est vrai qu'on pense souvent à Roland-Garros, mais on avait la chance d'avoir un magnifique tournoi au mois de février que toutes les Françaises, c'était un tournoi que féminin, qui était l'équivalent, on va dire, du Rolex Paris Masters, mais qui était à Coubertin, donc une plus petite salle avec le public encore plus proche, mais il y avait des ambiances, mais j'ai des souvenirs mais de malade. J'avais joué la finale devant David Douillet, qui était à l'époque ministre des Sports. J'étais arrivée à faire une remontada contre une fille qui était top 5 mondiale. J'étais menée 5-1 au deuxième, j'arrivais à gagner le deuxième set, mais j'ai cru que le stade il allait exploser. C'est des ambiances, même si à la fin j'ai perdu le match, je me souviendrai toute ma vie de ces ambiances là et en fait mon plus grand regret, c'est pas être arrivée à mieux jouer sur terre battue, parce que malheureusement c'est là où mon tennis s'exprimait le moins. Mais les quelques fois, par exemple à Wimbledon, où j'avais des Corses qui faisaient le déplacement et qui me sortaient le rabot Corse, mais là je ne raconte pas, j'étais galvanisée.
C'est génial.
J'étais
galvanisée. Oh, c'est marrant, c'est pour vous. Ah oui,
totalement.
Tu sais, dans le truc hyper feutré. Marion, ce qui est assez
drôle, c'est drôle, on découvre ça parce que en préparant ce truc, tu vois, j'aurais pas pensé avoir les propos de Marc et les propos de Marion.
Mais ouais, non,
connaissant les personnages plutôt volcanique de Marco et Marion plutôt posé, j'aurais pensé l'inverse.
Oui, mais Marion, alors après c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a vos tempéraments.
Non, mais après ça tout dépend de là où tu te situes dans l'événement et quel est l'événement. Pour moi, sur les pavés, je m'interdisais de me laisser prendre par l'euphorie du truc. C'était sens interdit total.
Mais est-ce que
moi j'aurais adoré faire un sport indiv ou sport collectif et jouer dans un stade pour ça. J'aurais adoré ça.
Mais pour moi, il n'y a rien de comparable. Ouais, comme Marc l'explique très bien, dans une salle, tu es dans une salle.
Ouais, en fait, tu peux aller dans stade un stade ou sur un terrain, même seul, comme Marion, ça
en fait, là, tu as toute l'énergie qui se dirige vers toi, exactement. En fait. Et ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas être comparable avec vous, malheureusement. Parce que là, on est dans un espace clos et qu'on ressent l'énergie de chacun. On les voit, on peut dire, ils nous parlent parfois.
Toi, quand tu claques un gros dunk devant le public français,
tu les regardes, tu es chaud et en fait, tu es plus bouillant que d'habitude. J'arrive d'y penser.
T'es beaucoup trop chaud là.
C'est un truc incroyable, mais c'est des sensations incroyables. Et encore une fois, quand tu fais du sport, pour moi, je fais du sport aussi pour ça. Pour ça. Parce que, parce que cette communion avec le public, en fait, c'est merveilleux.
Non, mais attendez, alors c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Quand on fait du sport, on le fait pour ça. Quand vous étiez gamin, gamine, quand vous avez rêvé d'être des sportifs de haut niveau, vous vouliez performer. Devant le public français, vous vouliez être peut-être celui qui va gagner Roubaix, celui qui va gagner le Tour de France devant le public français, celui qui va gagner Roland Garros.
Tu mets le gros shoot devant le public français, tout le monde t'acclame, mais bien sûr c'est ce que tu veux. C'est impossible de dire j'ai envie de jouer devant personne, j'ai envie de jouer avec personne qui m'encourage, j'ai pas envie de jouer chez moi. Je ne comprends pas cette façon de.
Mais alors,
de résumer. Attendez, encore une fois dans les sports co, je trouve qu'il y a,
ouais,
vraiment
un distinguo dans la construction, dans l'imagerie quand tu es enfant et que tu commences à penser plus haut. Moi, quand je jouais au foot, les images que j'avais, c'est jouer dans un stade plein et je marquais un but. Et quand j'ai commencé à faire du vélo et j'ai senti que je pouvais réussir dans ce sport, c'est d'être sur le Tour de France ou les grandes classiques avec plein de public.
Et du public qui t'acclame, qui t'encourage. Et qui t'acclame le plus et qui t'encourage
le plus? Dans le vélo, on n'est pas embêté avec ça, ils nous acclament toujours.
Non, c'est vrai,
du premier au dernier.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qui t'acclame le plus quand même, c'est quand même chez toi.
C'est français,
mais chez toi, évidemment.
Non, mais alors ce qui est intéressant, c'est que vous, en tout cas, vous quatre, vous gérez plutôt bien ça, soit en faisant abstraction, soit en puisant une énergie
quand
avec le
public. Coureur, je faisais abstraction. Oui, quand tu cours. Après, patron d'équipe, c'est autre chose.
Ah, mais patron d'équipe, Marc, quand tu passes dans le virage de Thibaut Pinot, ça t'émeut carrément aux larmes.
Là, c'est
ce que ça représente. Ouais, je suis sûr que ça fait partie de tes meilleurs souvenirs de carrière globale aujourd'hui. Mais est-ce que vous comprenez que ça puisse aussi couper les jambes?
Non, mais
Marion, t'as dû voir des joueuses et des joueurs français. Autour de toi, Roland Garros, qui n'arrivait pas à gérer la situation. Jérôme, tu as dû voir des coureurs sur le Tour de France, ou Marc aussi, peut-être, à l'approche du Tour, qui avait peut-être plus de mal à s'exprimer. Enfin, Sarah nous l'a dit, par exemple, ici, Sarah Pitkowski, elle nous disait à Roland, j'avais tellement envie de bien faire que j'arrivais pas à m'exprimer de la même façon qu'ailleurs.
Donc, pour en avoir discuté souvent avec Amélie, Mauresmo, qui a été numéro un mondial, qui a gagné le Masters, qui a gagné l'Open Australie, qui a gagné Wimbledon, qui a été jusqu'en demi à l'US Open. Le seul tournoi du Grand Chelem où elle a le moins bien performé, c'était Roland Garros. Il y a des fois, elle arrivait comme vraiment favorite pour gagner le tournoi et perdre au premier tour. Elle n'arrivait pas. Et c'est bien sûr immense regret parce que c'est un traumatisme quand vous êtes aussi haut ailleurs et que chez vous à la maison vous n'arrivez pas à jouer, c'est dur quoi, c'est dur mentalement. Mais elle avait ce stress supplémentaire qui arrivait dans son bras et elle faisait des non-matchs. Et pour en avoir discuté beaucoup avec elle avant ma finale de 2013, justement en lui disant moi ma première finale j'ai fait, je l'ai perdue, donc comment je fais pour changer ça et cette fois-ci pas la perdre une deuxième fois, parce que deux fois finale ça avait pas gagné, et tu peux faire même 50 fois finale, ça a toujours pas un titre, enfin toujours pas de titre. J'en ai discuté beaucoup avec elle et c'est vrai que ça, pour certaines personnes ça apporte
un stress supplémentaire,
mais par contre elle le fuyait jamais, c'est-à-dire que ça lui faisait pas peur, c'est juste que elle avait plus de mal qu'ailleurs aller le combattre, mais elle fuyait jamais ses responsabilités, elle y allait toujours, elle avait toujours envie d'être devant le public français, elle avait toujours envie de jouer en France, elle avait toujours envie de représenter la Fed Cup en France, d'aller jouer des gros matchs, mais c'était juste
moi au basket, je n'ai jamais vu un joueur moins performer en équipe de France à la maison. J'ai déjà vu des joueurs qui, quand on se déplaçait, parfois le public hostile, ça peut les inhiber. Le public à la maison, je n'ai jamais vu un joueur de basket être moins bon quand il joue à la maison que quand il joue à l'extérieur, jamais de ma vie.
Ça n'existe dans pas. Dans un stade.
Oui, mais encore une fois, vraiment, il y a un contexte, il y a le contexte du sport co, il y a le contexte d'être dans une salle, etc.
C'était solo le tennis.
Mais je n'ai jamais vu un basketteur être moins bon quand il joue à la maison que quand il joue à l'extérieur. Ça n'arrive pas, parce qu'au contraire, les gens sont là, encore une fois, quand tu représentes l'équipe de France, hein, mais parce que les gens sont là pour communier avec toi. Ils ne sont pas là pour te mettre la pression, ils sont là pour que ça se passe bien.
Mais je peux comprendre que ça puisse. Qu'on puisse avoir le bras qui tremble en tennis, les jambes un peu coupées en vélo,
dans les sports individuels, je le comprends plus que dans les sports co.
Oui, voilà. Dans le sport individuel, moi, je peux comprendre aujourd'hui, et notamment, là, Lou en parle très bien, mais je pense que c'est aussi le cas des autres filles, avec en plus le contexte actuel, qu'elles tremblent un peu quand elles arrivent au Grand Beau, parce qu'au Grand Bornand, c'est aussi la Coupe du Monde en France. À l'approche des Jeux, les nénettes, elles sont absolument pas sûres d'aller aux Jeux parce qu'il y a une sélection à faire en plus de l'histoire avec Julia Simon. Donc,
ouais, mais est-ce que c'est pas le contexte justement?
Ouais, mais t'as vu, regarde, on en a parlé aussi pour les Jeux Olympiques à Paris.
Elles sont sous les yeux des athlètes français. Elles sont sous les yeux de leurs supporters. Elles sont sous les yeux de leur staff. Elles sont souvent très loin dans les pays nordiques. Et là, c'est chez eux et chez elles, elles sont. Probablement, en plus, il faut qu'elle tire dans des cibles très petites. Je peux te dire que si elle tremble.
Je voudrais rebondir sur les Jeux. Moi, je trouve que sur les derniers JO à Paris, on a eu
un public extraordinaire et les athlètes français globalement ont bien utilisé la présence du public français, je trouve.
Ah oui, mais après Marc, parce que là peut-être qu'on a le prisme des de ceux qui ont gagné. Oui. Mais il y en a certains, ouais, il y a beaucoup célébré les gagnants. Beaucoup de ceux qui n'ont
pas gagné, il y en a pas beaucoup.
Non non, mais bien sûr.
C'est vrai qu'en tennis, on n'a pas trop bien formé, mais bon bref.
Mais ça c'est malheureusement.
Je vais pas être désagréable, mais
c'est surtout qu'après. Tu lui en as pensé.
Après, il y a faut pas non plus oublier et perdre d'idée que tu performes que si déjà t'es favori, quoi. Si t'es chez toi mais que t'es mauvais, tu vas pas gagner.
Ça donne un surplus de motivation et d'énergie, mais il n'est pas de 50%, il est de 2%.
Non, mais c'est intéressant aussi de, par exemple, quand t'avais les finales Federer Novak Djokovic, où souvent le public scandait Roger, en particulier en finale de Wimbledon. Et Novak disait, bah, en fait, moi, j'entendais Novak, pour arriver à me galvaniser, justement, à aller prendre le soutien du public. Je pense qu'il y a aussi une...
Il est sourd, Novak.
Il faut arriver à être dans un espèce de développement personnel pour arriver à accepter aussi toute cette pression supplémentaire. Mmh. Je pense qu'il faut être dans un cheminement où t'es capable, à un moment donné, de te dire, bah voilà, je sais que je suis capable d'atteindre ce niveau, je sais que je suis capable de gagner, et le public va m'aider à gagner encore plus. Tu vois, je pense qu'il faut être aussi, comme tu l'as dit, à un certain niveau. Si t'es vraiment
totalement insider, t'as pas de niveau, ça va pas non plus. C'est toi qui dois maîtriser ton propre cerveau par rapport à l'événement.
Oui. Mais tu te crées ton environnement, voilà, comme vous le dites tous les deux.
Tu dois en être capable. Sauf que ce que je veux te dire, moi, c'est qu'aujourd'hui, la Mastart, Justine Brezaz-Boucher, avec dans ses skis Julia Simon, avec ce qui s'est passé, et encore une fois l'épée de Damoclès pour la sélection. S'il y en a une des deux qui s'entend siffler et que l'autre est très encouragée, ou encouragée alors que c'est elle qui passe. Évidemment, ça crée de la fébrilité. C'est une évidence.
Oui. De la quoi?
De la fébrilité.
Ah oui, est-ce que j'ai compris?
J'ai mis un R avant.
Je me suis dit, il y a beaucoup trop de R.
Il n'y a pas Christophe. Il n'y a pas Didier Deschamps.
Christophe, c'est sûr.
On va fermer la porte de ce vestiaire. On ferme la porte du vestiaire. C'était fascinant. Vous entendez partager vos expériences. Là, pour le coup, on est vraiment dans la tête des sportifs de haut niveau face, aux difficultés qu'on peut avoir parfois ou pas. Donc, comme vous, devant le public français. Le public français, justement, à Val d'Isère pour le ski alpin, l'épreuve de Super G féminin avec Léna Marjac et Sébastien Amier sur place pour RMC. Lindsey Vonn dans le portillon de départ, c'est ça?
Tout à fait, Lindsey Vonn avec ce dossard rouge de leader aussi du classement du Super G. Et je dis peut-être une bêtise là, Bastou, non, mais si elle a bien non.
Robinson,
voilà, bah, je dis bien une bêtise. Mais en tout cas, elle a le dossard très sur les épaules et c'est parti à l'instant pour Lindsey Vonn, la superstar. On ne la présente plus, 41 ans, 83 victoires en Coupe du Monde. Elle s'est déjà imposée ici en 2017 en Super G, l'américaine. Et elle commence le haut de ce parcours avec 9 petits centièmes d'avance sur notamment Sofia Gauthier. Gia, l'italienne qui est en tête, Bastou.
Oui, un gros saut au passage du téléphone. On l'a vu légèrement décalé sur sa trajectoire. Mais par contre, la vitesse est là. Elle fait du bon ski. On sait que sur ses parties techniques, elle est capable de vraiment magasiner la vitesse. Là, c'est un peu derrière. C'est un peu tranquille sur ses trajectoires maintenant, un peu bas. C'est pas du grand ski aujourd'hui pour l'INSEE pour l'instant.
C'est comme hier, il y avait des petites erreurs par-ci par-là, elle l'a dit, il fallait les corriger, mais aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour l'américaine. Elle reprend un petit peu de temps, 2 dixièmes de retard pour l'INSEE Vonn dans ce Super G ici à Val d'Isère.
Voilà, là elle sait faire, elle a su remettre vraiment les cannes sous les bras, se baisser un petit peu plus, qui est beaucoup plus en ligne sur la partie du goulet. Il faut prendre toute la vitesse pour le bas, une bonne vitesse, 110 km/h, c'est pas mal, mais je sais pas si ça fera le match en bas.
Oui, elle sort un peu large aussi sur certains secteurs. L'américaine, le dernier saut pour arriver en bas ici du Super G. Elle a 3 dixièmes toujours de retard. L'américaine, elle va passer la ligne d'arrivée avec 4 dixièmes de retard, 36 centièmes exactement. Elle est donc 3e, elle est sur le podium, Lindsey Vonn, mais pour l'instant il n'y a toujours pas de victoire ici à Val d'Isère.
Et on attend le passage des Françaises dans quelques instants, Léna et Sébastien. Mais allez, pour ne rien rater, on revient dans un instant dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Marion Bartoli, Marc Madio, Jérôme Pinault et Fred Weiss. Eux, ils savent se servir de l'énergie d'un public, ou en tout cas, parfois faire abstraction pour aller chercher les meilleures performances possibles. Tiens, il y a quelques instants, je vous proposais de vous inscrire au jeu de Noël. Eh bien, on a le grand gagnant avec nous aujourd'hui, la grande gagnante. C'est Manon que j'accueille au 32-16. Salut Manon!
Salut à toute l'équipe. Salut Manon.
De
vous avoir.
Ah, bah, c'est nous, on est ravis. En plus, on est ravis pour toi parce que t'es sûr de gagner.
Félicitations. Voilà.
T'es sûr de gagner.
Merci.
Alors, j'ai devant moi, on est le combien? On est le 21, c'est ça aujourd'hui?
21.
La case du 21 dans le calendrier de l'avant RMC. Je prends le petit papier. Fred Weiss essaie de lire avant. Toi, t'étais un tricheur à l'école, je le sens. Oh là 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 là. Tu as gagné le maillot signé authentifié de Dennis Rodman des Chicago Bulls. Un maillot de NBA Collector d'une valeur de 449 € de notre partenaire authenticsignature.com. Là, t'as un maillot NBA Collector. Donc, c'est un trésor pour tout fan de sport.
On peut en discuter, si tu veux, Manon.
Ah ouais, Fred Weiss, c'est complètement fan. Félicitations, Manon.
Merci, merci, c'est super gentil, je suis très contente.
Eh bah, ben, écoute, on est ravis de t'offrir ça. Et joyeuses fêtes à toi.
Merci,
joyeuses
fêtes. Merci, passez bonne fête à tous.
Allez, on va retourner tout de suite au pied de la piste de Val d'Isère, la piste Aurier-Équilly pour le Super G féminin, Léna Marjac et Sébastien Mie pour le départ de Romane Miradoli, la française.
7 petits centièmes d'avance sur le haut de cette piste pour Romane Miradoli, c'est sa discipline, le Super G. Elle, oh là, elle s'est pris la porte à l'instant, elle va perdre beaucoup de vitesse, Bastoun.
Ah, malheureusement, elle a mis le bras dans une porte où elle arrivait très vite, très direct. Elle a perdu quand même pas mal de temps. Est-ce qu'elle a réussi à se remettre dedans comme il faut? Non, c'est moindre mal. Hein. 35 centièmes avec la faute qu'elle a fait. Il faut y aller, il faut oser maintenant. La visibilité est très bonne. Il faut rien lâcher, c'est pas fini la course.
Il faut mettre de l'engagement et je le disais la semaine dernière, elle reste sur un podium en Super G, deuxième à Saint-Moritz. Il faut surfer sur ça malgré cette petite erreur, mais il y a du temps qui est perdu. 6 dixièmes de retard maintenant pour Romane Miller.
C'est correct, on a vu que sur la partie haute, elle arrivait à emmener de la vitesse. Est-ce qu'elle aura aussi assez de vitesse dans la partie finale pour aller chercher ces 5 dixièmes qui lui manquent? En tout cas, il manque 2 dixièmes pour monter sur le podium.
La position de recherche de vitesse pour Romane Miradoli et qui va arriver dans quelques instants au niveau de ce dernier saut de la piste Oreiller Killy. La voilà, 8 dixièmes maintenant, presque 9 dixièmes de retard pour Romane Miradoli. Cette faute en haut lui a coûté cher parce qu'elle partait très très bien. La Française, elle passe la ligne d'arrivée avec 9 dixièmes de retard. Elle est donc 8e, Romane Bastoula.
C'est dommage parce que les intentions étaient bonnes. Cette faute lui coûte très cher et c'est vrai qu'à grande vitesse, quand on fait une faute comme ça, c'est dur aussi de se remobiliser. Je ne sais même pas si elle a passé le pied ou si c'est que le bras. Je vois le ralenti seulement maintenant. Attention là.
Je pense qu'elle passe une grosse partie du corps quand même.
Ça a validé le temps du coup de Miradoli si passe pas bien la porte.
Ah ouais, non, mais c'est bon, les deux pieds sont passés du bon côté, donc elle sera classée. Pour l'instant, elle est 8e.
Ok, bon, bah écoutez, on attend le passage de Laura Gaucher dans quelques instants. Impressionnant, franchement, Romane Miradoli, elle a quand même réussi à faire une sacrée performance après avoir pris cette porte pleine poire. Elle est allée jusqu'en bas de la piste. Allez, on revient dans un instant pour le passage d'une Française. Non, mais Fred, tu vas rire à tout ce que je dis dans l'émission.
C'est la fin de l'année, là, ça commence à devenir compliqué. Je sens le poids des émissions qu'on a fait ensemble.
Allez, tout de suite, la fête du foot africain débute aujourd'hui au Maroc.
RMC, les GG sur le buzzer.
Wamari Dilanawa. Tala pour mettre ce ballon dans la surface, ce sera au prix de la tête et le but. Le but. Et le voilà.
Une belle compétition. On est heureux d'y participer, on est heureux de d'y être et ça c'est le plus important. On va donner le maximum. On a les meilleurs supporters du monde. Quand on a eu besoin d'eux à chaque fois, ils ont répondu présent. Non, Achraf jouera la CAN, ça c'est certain. On est très positif quant à la participation d'Achraf.
Hakimi qui se concentre. Achraf Hakimi qui frappe la Panenka.
Le Maroc accueille à partir d'aujourd'hui la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un événement considérable au pays qui a énormément investi dans ses infrastructures, qui accueilleront notamment une partie de la Coupe du Monde 2030. Et oui, le Maroc est favori de cette CAN qui débute ce soir face aux Comores à 20h à suivre sur RMC sur place pour la compétition. Vous ne raterez rien avec notamment les After CAN tous les jours à 22h avec Gilbert Bribois et ses équipes à Rabat. Les Lions de l'Atlas, 4e de la dernière Coupe du Monde, comptent sur le retour d'Achraf Hakimi pour gagner une compétition qui leur échappe depuis 1976, 50 ans, ce serait surtout une façon de montrer à la terre entière qu'il faudra compter sur eux l'été prochain au Mondial. Les GG, je vous pose la question. Oui ou non, justement, se projetant un peu, le Maroc est-il un sérieux outsider à la prochaine Coupe du Monde quand on voit la force qu'a pris désormais cette sélection? Marc Madio.
Plutôt oui.
Fred Weiss.
Oui.
Jérôme Pinault.
Je vais faire une réponse à la session. Oui, si la CAN se passe bien.
Il est omniprésent, Christophe Cessieux, en fait. Et Mario Martoli.
Et il vous occupe la tête, quand même. Hein.
Oui, on vous attend au 32-16, WhatsApp 06 12 424 424. On va aller au Maroc dans quelques instants pour avoir les dernières informations et se plonger dans l'ambiance. Mais d'abord, retour à Val d'Isère, le Super G féminin avec Laura Gaucher, la française, Léna Marjac et Sébastien Amier.
Oui, la skieuse de Tignes est en piste. 23 centièmes de retard au deuxième temps intermédiaire. 46 centièmes à l'instant au troisième temps intermédiaire. Mais elle a fait un très bon bastoon.
Ouais, c'était très bon. Hein. Très engagée sur son ski. Hein. Il y a longtemps qu'on l'a pas vue comme ça. Elle sort d'une cinquième place à Saint-Moritz. En tout cas, c'était très très bien. Elle est sortie un peu large sur une trajectoire pour emmagasiner toute cette vitesse sur cette partie de glisse. On va voir au prochain temps intermédiaire ce que ça donne. La vitesse est faible, malheureusement.
Laura Gaucher donc en piste. Le temps intermédiaire à l'instant, une seconde maintenant de retard, et ça fait très très mal parce qu'elle a perdu plus de 6 dixièmes sur ce secteur. Laura Gaucher, qui on le sait a été déçue hier de sa performance, elle avait envie de se remobiliser, mais malheureusement aujourd'hui 1 seconde 20 au moment du passage de la ligne d'arrivée. Elle est donc 14e.
Ok, on vous retrouve tout à l'heure pour le résultat final, donc avec nos Françaises malheureusement qui ne monteront pas sur le podium aujourd'hui pour Miradoli et la Française Laura Gaucher. On retourne à la CAN donc, qui se passe au Maroc à partir d'aujourd'hui, à suivre sur RMC. On se pose cette question, le Maroc est-il un sérieux outsider à la prochaine Coupe du Monde? Nicolas Pelletier sur place à Rabat pour RMC. Salut Nico.
Salut les GG, salut à tous.
Bonjour Nicolas. Salut.
On voyage, on est partout hein, aujourd'hui dans la Coupe du Sport. On était à Madrid, à Rabat, à Val d'Isère. On sera au Grand Bordant tout à l'heure. Alors à Rabat, raconte-nous un peu Nico. C'est tout un pays qui s'enflamme et rêve avec sa sélection, qui a l'ambition de s'installer durablement parmi les grandes de ce monde hein.
Oui, depuis ce matin, le stress est à son comble ici à Rabat et dans tout le Maroc. On ne parle que de ça dans les rues de la capitale. C'est la consécration tout d'abord pour le royaume après des millions d'investissements dans les infrastructures et dans le football marocain. Des stades modernes, des matchs filmés en ultra haute définition, des pelouses de qualité. La CAN entre dans une nouvelle ère, mais c'est surtout le stress qui gagne progressivement les supporters jusqu'à ce soir 20h. Les Marocains rencontrés dans le souk de Rabat hier n'attendent que ce moment d'histoire.
Le Maroc, c'est un pays de football. C'est le Brésil de l'Afrique, on va dire. On a vraiment l'effectif, on a tous les moyens pour gagner cette CAN.
Il y a une pression terrible, mais je pense qu'on a les éléments nécessaires pour structurer, pour briller et pourquoi pas laisser cette coupe au Maroc.
Il n'y a aucun Marocain qui va pas dire que je vis pas cette pression. Mais une pression positive. On va la rendre positive parce qu'il y a des pressions négatives, mais on va la rendre positive, mais avec le public. Et écoute, ça va être chaleureux, ça va être une ambiance de fou.
Ouverture des portes à 14h pour un match. À 20h, l'ambiance attendue s'annonce dingue et un homme a plus de pression que les autres. C'est le sélectionneur Walid Regragui. Il n'a pas le droit à l'erreur sur cette compétition. Hier, en conférence de presse, il est apparu très détendu aux côtés de son capitaine Achraf Hakimi.
Nous, l'objectif, bien sûr, comme on l'a toujours dit, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah, devant notre public et de donner le maximum. Et on espère faire la plus belle compétition possible.
Ça fait longtemps qu'on attend ce moment, depuis qu'on est éliminé de la dernière Coupe d'Afrique. Et on sait, comme on l'a dit, la responsabilité qu'on a, l'envie qu'on a. Et aussi, on a travaillé beaucoup pour être prêt pour cette Coupe d'Afrique.
Le Maroc est devenu au fil du temps hein, une plaque tournante du football professionnel. Même la FIFA s'est installée dans le pays.
Ah oui.
Le royaume n'attend maintenant qu'une chose. Tiens, la victoire finale le 18 janvier et la première depuis la victoire en 1976.
Merci Nico. À Rabat donc pour RMC. Maroc commence ce soir 20h pour ouvrir la CAN. J'ai adoré cette phrase d'un supporter marocain rencontré dans le souk par Nico. Le Maroc, c'est le Brésil. Et je rappelle qu'il y aura Maroc-Brésil, ce sera le premier match à la Coupe du Monde pour les Marocains. Hein, ils sont dans le groupe du Brésil. Non mais le Maroc est devenu une puissance mondiale, franchement, dans le foot. Je pense qu'on est tous d'accord. Tout le monde a répondu oui.
Il y a eu beaucoup d'argent investi. Il y a beaucoup de volonté. Ils ont fait quatrième la dernière Coupe du Monde. Ils sont champions du monde U20. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai engouement, pour le football là-bas.
Moi, Métis
est super fan de foot. Donc, forcément, il investit beaucoup d'argent. Et quand il y a de l'argent investi, quand il y a des infrastructures, quand ça travaille bien, tu dis qu'il y a une chance. Mais je rejoins Jérôme sur ce qu'il disait. la CAN, c'est extrêmement important. T'es à la maison, t'es obligé de concrétiser. Pour moi, ce serait un pas en arrière que de pas gagner la CAN. Il faut continuer à montrer que t'es la meilleure nation africaine et il faut continuer à gagner et à montrer que, bah, tu fais du bon travail. Donc, pour moi, c'est capital de gagner cette CAN.
Le Maroc est dans une nouvelle ère, c'est-à-dire que c'est l'ère du collectif. On a des génies dans cette sélection. Walid Greggraghi a monté le groupe le plus fort possible en s'appuyant beaucoup sur le savoir-faire des grandes équipes européennes qui gagnent, c'est-à-dire un collectif avant de l'individualité.
Oui, mais t'as quand même des joueurs de classe mondiale.
Et t'as des grands joueurs, oui. Je voulais en venir. Onani Aguerd, Saïs,
Brahim Diaz qui joue
là.
Et Achraf Hakimi qui aurait mérité d'être Ballon d'Or. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette équipe-là, elle doit développer du jeu. Ce qui n'a pas été le cas à la dernière Coupe du Monde, on se rappelle quand même du quart face à l'Espagne où on met le bus, terminé. Elle doit développer, elle doit plaire à son public et puis elle doit gagner. Parce que si elle ne gagne pas cette CAN chez elle, avec la pression, on la connaît, on le dit dans le souk, pression négative, on va la prendre. Non, il faut qu'ils gagnent. Ils ne seront pas pardonnés.
Aussi, gagner, hein.
Et pour Greggraghi, exactement.
S'il ne gagne pas, il peut y avoir.
Donc énorme pression, mais si tu
perds. Pour moi, la Coupe du Monde aux US dépend de ça. S'il gagne, ça va être. Un truc de fou. Bah, et il rentre parmi les favoris de la Coupe du Monde. En tout cas, les 4-5 meilleures équipes du monde. Marion, s'ils perdent, ils vont. J'ai peur qu'ils chamboulent tout.
Toi, tu disais sérieux outsider pour la Coupe du Monde aussi, Marion. On les positionne où aujourd'hui? C'est-à-dire que le Maroc, pour n'importe quelle grande nation mondiale, aujourd'hui, c'est une équipe à prendre au sérieux quand on la trouve au mondial, Marion?
Totalement. Et puis quand on voit leurs résultats, alors ça a été dit, mais j'aimerais rajouter également le médaille de bronze au dernier JO de Paris. C'est une nation qui s'est développée.
J'étais dans le stade.
Qui ont vraiment, avec sous l'impulsion du roi Mohamed VI, qui ont investi énormément d'argent dans la formation. Ils ont créé un centre de formation, le dernier cri, qui porte le nom du roi d'ailleurs. Au début des années 2010, ils ont été capables de former leurs joueurs au Maroc et ensuite de les exporter en Europe. Et en fait, pour moi, ils ont un mélange à la fois de joueurs de classe mondiale et aussi de jeunes extrêmement talentueux. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils sont champions du monde des U20. Je trouve qu'ils arrivent à être dans toutes les catégories extrêmement performants. Alors là, il y a plusieurs éléments. Effectivement, la CAN à la maison, c'est une pression énorme. On vient de parler du fait que le public soit capable d'aller te transcender. Et s'il y a bien un public qui pousse leurs joueurs, c'est le public marocain, qui sont absolument extraordinaires dans la manière dont ils sont capables de pousser leurs joueurs. D'ailleurs, ce qu'a déclaré le coach Walid Regragui m'a fait énormément rire dans sa conférence de presse, qu'il a dit quand même tous les influenceurs et qui sont là pour faire des snaps, vous pouvez rester à la maison et manger des petits fours en présentiel. Nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir des vrais supporters qui viennent encourager notre équipe. Pour moi, je les place dans la catégorie juste en dessous des archi-favoris pour la Coupe du Monde, c'est-à-dire la France, l'Argentine, l'Espagne, l'Angleterre. Je les place en groupe juste en dessous, mais vraiment à peine en dessous.
Non, mais ce qui est sûr, Marion, je ne sais pas si tu es d'accord avec
moi. Ils vont chercher des grands matchs. Bah, ils sont quand même à 18 victoires consécutives.
Franchement, Marc, Maroc-Brésil en ouverture de la Coupe du Monde.
Jouable.
Moi, ça me plaît.
Non, mais pas dit que le Brésil n'est pas forcément favori contre le Maroc.
Dis, jouable pour le Maroc, il n'y a pas de souci. Ah oui,
ils ont l'Écosse et Haïti dans le reste de leur groupe en Coupe du Monde.
Non mais franchement, enfin voilà, c'est pour ça qu'il va falloir compter sur cette bien équipe. Sûr. Quand on a l'impression de voir peut-être une nation africaine qui n'a jamais été aussi structurée et forte. Marc,
on les voit arriver de loin, donc il y a une montée en puissance, il y a une organisation. Mais il y a quand même un mais. Cette CAN va être déterminante. Ouais. Ça va être une clé de voûte et un pivot.
Marion le dit très bien.
Ça peut aussi finir en cacahuète.
Ce public-là va être un grand soutien. Exact. Elle ne pardonnera pas s'il ne gagne pas.
Et on le rappelle, alors peut-être que la prochaine Coupe du Monde se fait trop tôt pour les Marocains, mais ils accueilleront une partie de la Coupe du Monde 2030, ce qui est peut-être le grand objectif pour les Lions de l'Atlas. Quel nom incroyable. Maroc-Comore, 20h, le début de la CAN. On ne ratera rien sur RMC. Évidemment, on est sur place. Dans un instant, les jeux du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, tout de suite on joue.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2. Vous allez défendre un auditeur. Répartition des équipes, Fred Weiss avec Marion Bartoli.
Ouais.
Bah c'est parfait.
Oula.
Marion Bartoli, tout seul.
C'est bon, j'arrive, je vais venir chercher une colis.
Ça sonne à la porte. Ouais.
Et Jérôme Pinault avec Marc Madio.
Équipe vélo.
Ouais, bien sûr.
Là, on va les broyer.
Tout de suite, on accueille les auditeurs, Pascal et David. Salut les amis.
Salut.
Bonjour.
Pascal, il va falloir ouvrir pour le livreur là derrière. Pascal, c'est toi qui as appelé en première, donc je te laisse choisir ton équipe avec Weiss Bartoli ou Pino Madio.
Veit Bartoli, merci.
Veit Bartoli, merci à toi, Pascal. Merci, Pascal. Et donc, Davy avec Jérôme Pinault, ou Davy, je ne sais pas, on le demandera, avec Jérôme Pinault et Marc Madiou. Allez, c'est parti, il faut aller vite. Question à une seule réponse. Les GG, c'est pour vous. Une seule réponse. Qui est le vainqueur sortant de la CAN?
Le Sénégal?
Non.
La Côte d'Ivoire?
La Côte d'Ivoire, Fred Weiss. Ah, t'es là, Fred. Hein.
Ouais, oui, oui.
C'est incroyable. Question à une seule réponse. Si je n'ai pas la bonne réponse, le plus proche l'emporte. Combien de titres a gagné Carlos Alcaraz cette saison?
26. Non, trop tard.
Une saison terminée.
Ah, 10
sur la saison.
10.
Marion, vite, sinon je pense que tu vas aller.
Il a joué avec moi.
11.
14.
La réponse est 8, c'est l'équipe Fred Weiss, Marion Bartoli qui est la plus proche. Deux points.
Allez, Marion, tu te réveilles maintenant.
Question auditeur.
Oui, mais bon, écoute, cette saison, il fallait que je les ajoute les uns après les autres.
Oui, bien sûr, ça fait comme ça que ça marche. Ouais. Vous menez 2-0. Question auditeur, c'est pour vous, Pascal et Davy. Soyez attentifs. Quelle biathlète française s'est imposée au Grand Bornand hier, Pascal?
Pascal Jean Bonneau.
C'est Pascal la bonne réponse. Tu as dit Jacquemot, Davy. Donc, Jacquemot, c'est.
Ouais, on
c'est
est mal.
C'était juste.
Bien, Pascal.
En plus, ouais. 3-0 pour l'équipe Bartoli-Weiss. Allez, on se concentre, les cyclistes, là. Question à une seule réponse. Quel joueur passé par le championnat de France a signé à Porto hier?
Thiago Silva.
Ouais, non, mais là, ça va trop vite.
Jérôme, il attendait depuis.
La détente.
C'est ça, hein. 3-1 pour l'équipe Bartoli-Weiss. Question à une seule réponse. Si le GC Nice perd contre Saint-Etienne aujourd'hui, les Aiglons en seront à combien de défaites consécutives?
10.
10, Fred Weiss.
Mais oui,
qu'est-ce qui se passe, Fred?
Alors, hier, on a dit qu'il se fait 9e défaite de suite aujourd'hui.
Elle vaut combien ta super question patate d'or, là?
Ah, tu veux activer la question impossible?
On n'a pas le choix.
Tu veux activer la question impossible?
Bah, elle vaut combien de points?
Qu'est-ce que c'est que ce règlement?
Elle vaut 2 points. 2 points, sinon tu perds.
On est trop loin.
Pas encore. Oui, tu peux activer la question impossible, Marion. Si jamais tu es trop derrière. Il y a 4-1.
D'accord, ok.
Question auditeur pour vous, Pascal et Davy. L'OM joue à 14h45 contre Bourg-Perona. Bourg-Perona, c'est un club de quelle division?
Pascal
National. Pascal, elle est en feu.
En fait, j'ai quand même l'impression de jouer avec Pascal plus qu'avec Marion.
Mais arrête. Vous répondez avant moi. Il y a un délai de temps. J'entends la question. Vous avez déjà répondu.
Allez, question élimination. 5-1. Je rappelle, question élimination, c'est pour 2 points. Chacun répond à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. On parlait du traumatisme de 2022 il y a quelques instants, hein, France-Argentine. Citez-moi les 25 joueurs de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2022. On commence par toi, Marc.
Mbappé,
c'est bon. Fred Weiss. Tu me le dis en français, s'il te plaît, pas en néerlandais. Allez. Un joueur de l'équipe de France.
Hugo Lloris,
c'est bon. Jérôme.
Kingsley Coman.
Ouais, excuse-moi. Marion.
Dembélé,
c'est bon. Marc. On cherche les 25 joueurs de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2022. 5, 4.
Saliba,
c'est bon. Fred Weiss. 5, 4.
Mandanda,
c'est bon. Et oui, t'as pensé au jeu d'hier. Jérôme.
Randal Colomouani,
bien sûr. Marion.
Giroud. Tous...
Olivier Giroud, bien sûr. Marc.
Dembélé
déjà dit, éliminé, Marc. Fred. 5, 4, 3.
Griezmann était là encore.
Attention, Jérôme Pinault. 5, 4, 3, 2.
Kamavinga.
Oh là là, mais quel Américain, celui-ci.
Le mec, il joue avec le buzzer.
Marion.
Non, je cherche après.
Upamecano,
bien sûr. Fred. On cherche les 25 joueurs d'équipe de France à la Coupe du Monde 2022. 3, 2.
Je sais pas.
1. Il ne jouait pas, à la Coupe du Monde.
Pas,
éliminé.
Il pas.
Non, Jérôme. 5.
Il y avait
4, 3.
Marcus Thuram.
2. Marcus Thuram. Marion. 3.
Théo Hernandez.
Bien, Marion.
Jérôme. Pavard. Marion. 3 questions.
Konaté.
Mais
oui.
Ça va plus vite maintenant. Là.
Jérôme. 3. 2. 1.
Gendouzi.
Oh là là, Gendouzi.
Oh
Marion.
Non, il faut qu'il arrête, Marion, sur le buzzer
Marion,
à chaque fois. Là.
3.
Tchouaméni.
2. Ah oui, Tchouaméni. Jérôme. 3.
Jules Koundé.
Koundé, incroyable. Marion.
Bien révisé.
3.
Gendouzi.
Déjà dit, éliminé.
Oh, il y avait du.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Ça fait donc.
Il y avait du. Le troisième gardien, c'était.
Trois. Pour l'équipe, le troisième gardien, c'était Areola. 5-3 pour l'équipe, Bartoli.
Et la super question machin, on l'a fait maintenant. Ça fait 2 points.
Non, on a plus le temps, 5. C'est terminé.
C'est trop tard. Dommage.
Il faut jouer avec le temps. Et oui, t'as joué avec le feu. Tu vois, t'as joué avec le buzzer pendant toute l'émission. Et c'est voilà. Donc Pascal qui s'impose. Bravo Pascal.
Bravo Pascal.
Bravo Pascal.
Et Pascal, de toute façon, c'est toi qui as gagné le jeu. Hein. Je te le dis direct. C'était toi la meilleure joueuse. Tu remportes l'aspirateur Cyclomax R15, station signée Easy Clean. Félicitations Pascal, donc joyeux Noël. Et ben on est heureux de t'offrir
David,
ce cadeau.
David, la ligne est bonne.
Oui, la ligne est bonne.
David, il est à côté de Marion.
Merci.
Jouez au jeu du sport sur RMC avec l'aspirateur balai Cyclomax R15 d'EasyClean, la marque française d'innovation. Profitez d'une maison impeccable au quotidien. Plus d'infos sur easyclean.com.
Merci Fred Weiss, merci Marc Madio,
salut.
Merci Jérôme Pinault, merci Marion Bartoli. On se retrouve ce soir à 19h30 pour Bartoli Time. Évidemment, les grandes gueules du sport sont là pendant les fêtes. Hein. Samedi prochain, le week-end prochain, vous avez rendez-vous avec Flora Moussi qui sera à ma place à la présentation. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, d'ailleurs, les auditeurs des grandes gueules du sport.